Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Mangui. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Très préoccupé par la propagation mondiale du nouveau coronavirus, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, affiche ce mercredi un optimisme prudent sur le front de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Sans notre urgence sanitaire de portée internationale. Sur le front anti-Ebola, aucun nouveau cas confirmé n'a été rapporté, ni aucun décès confirmé, et ceci pour le 7e jour consécutif, annonce l'OMS sur Twitter à partir de données s'arrêtant au 24 février. La lutte contre le nouveau coronavirus maintenant en Iran, le président Hassan Rouhani a accusé ce mercredi les États-Unis, ennemis jurés de la République islamique, de répandre la peur autour de l'épidémie de pneumonie virale dont le bilan en territoire iranien est de 15 morts, soit le plus lourd après celui de la Chine. La maladie touche de plus en plus de pays, y compris en Europe, et elle concerne désormais, Chine mise à part, plus d'une trentaine d'États, où elle a fait plus de 40 morts et 2500 contaminations. Bagassi Koura.
En Corée du Sud, les contaminations ont bondi pour atteindre près d'un millier de cas. Ce pays qui compte 10 morts est le premier foyer mondial après son voisin chinois. Le Japon a annoncé le décès d'un quatrième passager issu du paquebot Diamond Princess où près de 700 personnes ont été infectées. Téhéran a annoncé 3 nouveaux décès portant son bilan à 12 morts, le plus lourd en dehors de la Chine. L'Italie est le pays européen le plus touché avec 7 morts et près de 300 personnes contaminées. L'Autriche voisine a annoncé 2 premiers cas. La Suisse aussi a son premier cas dans une région proche de l'Italie. En Croatie, un jeune homme est devenu le premier cas connu dans les Balkans. 2 nouveaux cas ont été confirmés en France où 14 cas ont été détectés. 1 mort et 11 considérés comme guéris. L'OMS s'inquiète des risques pour les pays pauvres et mal équipés et la Chine est prête à offrir assistance et matériel médical aux pays africains, a déclaré le président Xi Jinping.
L'Égypte rend ce mercredi les honneurs militaires à l'ex-président Hosni Moubarak, décédé mardi à l'âge de 91 ans dans un hôpital du Caire. Une cérémonie officielle a lieu cet après-midi à la mosquée Al-Mouchir Tantawi, dans l'est de la capitale. Après les funérailles à cette mosquée, Hosni Moubarak doit ensuite être enterré dans le tombeau familial à Héliopolis, également dans l'est de la capitale. L'ex-président Moubarak, longtemps considéré comme le symbole de la stabilité au Moyen-Orient, a été évincé du pouvoir suite au soulèvement populaire de 2011. Son régime a été balayé par le printemps arabe. Un rappel de la vie de l'ancien président égyptien que certains appelaient le Raïs, le pharaon. Un dossier d'Elisabeth Award de la VOA repris ici par Abdourahman Dia.
Hosni Moubarak était aux commandes pendant près de 30 ans et il a fait de la gestion du pays une affaire familiale. Il avait placé ses amis et sa famille à des postes stratégiques. On le soupçonnait aussi de vouloir préparer son fils à lui succéder, jusqu'à ce que la rue en décide autrement. Et c'est son vice-président Omar Suleiman qui a annoncé la nouvelle de sa démission.
Dans ces circonstances difficiles que traverse l'Égypte, le président Moubarak a décidé de démissionner de son poste de président.
Quelques mois plus tard, il était au banc des accusés, jugé pour le meurtre de manifestants. Il a été condamné à la prison à perpétuité. C'était une fin politique impensable pour celui qui était le seul président que la plupart des Égyptiens ont connu. Pourtant, la présidence ne semblait pas être parmi ses ambitions. En 1981, les frères musulmans avaient tué le président Anwar Sadat, en partie pour avoir fait la paix avec Israël. Le vice-président Hosni Moubarak était à ses côtés. Cet événement tragique l'a propulsé à la tête du pays. Malgré son rôle dans la guerre de 1973 contre Israël en tant que chef de l'armée de l'air, il est devenu un élément incontournable dans le rapprochement entre l'Égypte et l'État hébreu lorsqu'il a pris le pouvoir. Il va diriger le pays d'une main de fer pendant 3 décennies, le plaçant en situation d'état d'urgence quasi permanente. Hussein Abdel Razak, l'ancien chef du parti de gauche Tagamo.
L'objectif premier de Moubarak était la paix et la stabilité.
Mais ce sont les activistes et les opposants qui ont payé le plus lourd tribut de sa politique dite sécuritaire. Kissam Kassem, analyste politique.
Nous ne parlons pas seulement de quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 30 ans et qui n'a rien fait. Avec lui, c'était l'obscurité. C'est cela son héritage. Il était ultra corrompu.
Aujourd'hui, malgré tout, le pouvoir actuel et certains parmi ceux qui l'ont combattu ont tenu à lui rendre hommage.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en Côte d'Ivoire, le procès en appel de Jacques Mangoua, président du conseil régional du Bekè dans le centre du pays, condamné à 5 ans de prison, a été reporté au 24 mars en raison de l'absence de l'accusé. Le prévenu a été écroué à Abidjan et n'avait pas été transféré pour l'audience. Le point avec Kiyabadou.
Quelques 200 militants du PDCI étaient présents au tribunal de Boaké sous haute surveillance policière. Faute de prévenu, le juge Taïrou Dembélé a renvoyé l'audience au 24 mars. Monsieur Mangoua, qui a toujours clamé son innocence, a été condamné le 3 octobre 2019 à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour détention illégale de munitions de guerre. Son entourage crie au complot et au coup monté. Un de ses proches assure que c'est lui-même qui avertit la gendarmerie de la présence des armes à son domicile. Jacques Mangoua préside la plus grande région de Côte d'Ivoire, donc vitale pour la présidentielle cette année. Il est un vice-président du PDCI d'Henri Côte Nambédier, maintenant passé dans l'opposition. Sa condamnation a été suivie de troubles qui ont fait un mort. C'est dans sa région où se trouve également le village de Béoumi, théâtre en mai 2019 de violences intercommunautaires qui avaient fait au moins 16 morts.
Au Niger, les enseignants des universités publiques ont entamé cette semaine un nouveau mouvement de mois de grève à l'appel de leurs syndicats. Le mouvement vise à protester contre l'adoption l'année dernière d'une loi qui instaure la nomination par décret des recteurs des universités qui étaient auparavant élus par les enseignants et les étudiants. De Niamey, notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Les étudiants, principales victimes de ce bras de fer entre le syndicat des enseignants-chercheurs et le gouvernement, lancent un cri de cœur aux deux parties.
Nous sommes en retard. Même s'il n'y a pas la grève, nous sommes en retard. La plus forte raison avec la grève.
Je crois que nous allons tous redoubler.
J'appelle l'État et les enseignants-chercheurs de s'asseoir et de voir ce qu'ils peuvent faire pour nos études. Puisque nos années sont en train de partir, imaginez, tu vas faire combien d'années pour la première année seulement? C'est pas du tout bon.
Tout ce qu'on demande, nous, c'est de retourner à l'école.
Le syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs du supérieur annonce que toutes les activités académiques que sont les cours, les travaux dirigés et les travaux pratiques prévus durant la période du mouvement de grève seront considérées comme exécutées. Toutes les tentatives de médiation ont jusqu'ici échoué, le gouvernement ayant annoncé qu'il n'est pas question de revenir sur le mode de désignation des recteurs, point essentiel des revendications du syndicat des enseignants. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant, course à la présidence aux États-Unis côté démocrate. Le sénateur Bernie Sanders, qui a accentué son avance dans les intentions de vote des primaires démocrates pour l'élection présidentielle de novembre prochain aux États-Unis, s'est retrouvé mardi au centre des attaques de ses rivaux dès le début du débat organisé en Caroline du Sud. Quatrième étape samedi des primaires de son parti. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Michael Bloomberg, en difficulté la semaine dernière pour sa première participation à un débat télévisé, a ouvert le feu en déclarant que la Russie tentait d'aider Bernie Sanders à obtenir l'investiture démocrate parce qu'elle était convaincue que le sénateur du Vermont serait ensuite battu par Donald Trump. L'ancien vice-président Joe Biden a pris le relais en critiquant Bernie Sanders pour ses positions passées sur les armes à feu lors de votes controversés à la Chambre des représentants puis au Sénat. En réponse, Bernie Sanders a martelé que des sondages le donnaient gagnant face au républicain Donald Trump. La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, alliée progressiste de Sanders, a suggéré que celui-ci était en tête parce que les idées progressistes étaient populaires, mais elle pense qu'elle ferait une meilleure présidente que Bernie. Joe Biden, longtemps considéré comme le favori dans la course à l'investiture du Parti démocrate, doit arriver en tête en Caroline du Sud pour préserver ses chances de victoire, tandis que Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar et Tom Steyer essayaient de se faire une place importante. Ce débat est le dernier organisé avant la primaire de Caroline du Sud, samedi et le Super Tuesday du 3 mars.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.